L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info local de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche la vie associative et donc la vie citoyenne. Notre invitée, Marie-Anne Langlais, nous parle de la marchandisation des associations.
Et qu'est-ce que c'est ?
Alors, depuis plusieurs années, les structures qui portent l'accompagnement social, culturel, sportif ou éducatif alertent sur une transformation profonde de leurs conditions de travail et de financement. Entre appels d'offres, concurrence accrue, exigences administratives de plus en plus lourdes et recherche de rentabilité, beaucoup s'interrogent, le monde associatif, pensé pour l'intérêt général, est-il en train de se transformer en marché comme un autre ? Et quelles en sont les conséquences pour les habitants, les bénévoles, les salariés et les territoires ruraux en général ? Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons donc tendu notre micro,
ou plutôt notre téléphone,
oui c'est vrai, à Marie-Anne Langlais, coordinatrice de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations.
On la retrouve tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Réunion publique de la commission locale d'information du budget ce 10 décembre.
Le département de l'Ain a la charge de mettre en place une CLI, une commission locale d'information quand une installation nucléaire existe. Son rôle est d'informer le public et d'assurer le suivi de l'impact de la centrale nucléaire du budget et du site Ionisos à Dagneux.
Cette CLI est présidée par Jean-Yves Flochon, vice-président du département de l'Ain, délégué à l'agriculture, à la préservation de la biodiversité et des ressources et à l'environnement.
Si vous êtes habitant proche du site de la centrale nucléaire, vous êtes invité à une réunion publique ce mercredi 10 décembre. Les exploitants présenteront l'activité de leur entreprise durant l'année écoulée. Au programme aussi des informations sur l'enquête publique relative au réexamen de sûreté. Et vous, en tant que public, vous aurez la possibilité de poser des questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.1.fr commissions-locales-information-centrale-du-budget.
Une microforêt à Bourg-en-Bresse.
La ville lance sa première microforêt urbaine de 650 mètres carrés sur la friche d'un ancien hangar à l'angle des rues du Pressoir et Prosper Nérot. L'ambition, créer un îlot de fraîcheur en plein milieu urbain qui agira comme un climatiseur naturel grâce à la transpiration des arbres. Cette forêt a été pensée selon la méthode Miyawaki, conçue au Japon par un botaniste, cette méthode a pour vocation de faire grandir rapidement des forêts et consiste à planter densément des arbres natifs de la région. À Bourg-en-Bresse, 1140 jeunes arbres seront plantés, érables, charmes communs, chênes, aubépines, fusains d'Europe. 31 essences différentes seront installées avec l'aide de l'association Alternative. Les habitants ont aussi pu contribuer aux plantations grâce à un chantier participatif. L'objectif final serait de contribuer à capter le CO2 et lutter contre la pollution en ville.
Devenir parrain ou marraine d'un enfant indinois.
Implantée dans l'Ain, sur la métropole de Lyon et en Ardèche, l'association Les Enfants de Bohème s'attache aux liens qui se tissent chaque jour entre un enfant et un adulte bienveillant. L'une des trois missions réalisées par cette structure est le parrainage de proximité.
Alors qu'est-ce que c'est le parrainage de proximité ?
C'est un lien unique et privilégié entre un enfant et un adulte bénévole. Il est fondé sur la confiance et l'écoute. Il permet à l'enfant de bénéficier d'une ouverture sociale et culturelle tout en lui offrant des repères stables et complémentaires à sa vie quotidienne ou familiale. À travers des moments de partage réguliers et ponctuels, l'enfant et le parrain créent un lien affectif durable. Dans l'Ain, l'association propose du parrainage aux enfants âgés de 3 à 18 ans qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance ou vivent en famille mais sont peu entourés socialement, isolés ou éloignés géographiquement de leur famille élargie. De prochaines réunions d'information sont proposées les lundis 15 décembre de 12h30 à 13h30 et jeudi 18 décembre de 12h30 à 13h30. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.1.fr/parrainer-1-enfant.
L'un dans l'autre, l'interview.
Nous rejoignons maintenant Marie-Anne Langlais, spécialiste des enjeux économiques des associations, pour éclairer ce terme un peu flou qu'est celui de la marchandisation des associations. Dans cette interview, elle revient sur les mécanismes concrets qui transforment le fonctionnement du secteur associatif, sur leurs difficultés quotidiennes, mais aussi sur les risques qui pèsent sur les missions qu'elles assurent.
Soit la création de liens sociaux, l'accès aux droits, en passant par l'accompagnement des plus fragiles et bien sûr la formation citoyenne chère à l'éducation populaire.
On l'écoute. Marie-Anne Langlais, bonjour.
Bonjour.
On vous reçoit aujourd'hui en tant que coordinatrice du rapport sur la marchandisation des associations, mais est-ce que vous pouvez présenter d'abord votre parcours à nos auditeurs, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Alors, tout d'abord, j'ai été 30 ans journaliste spécialisée sur les questions de santé et de sociale dans des journaux justement associatifs, mais aussi un journal national indépendant qui était à destination des travailleurs sociaux qui s'appelle Lien Social. Et en parallèle, j'étais un peu la compagne de route du collectif des associations citoyennes, qui est un collectif national qui regroupe des associations qui viennent de secteurs très différents. On a aussi bien des associations d'éducation populaire, des associations culturelles, des associations sportives, la CIMAD, mais aussi par exemple ATTAC, qui font partie de nos membres. Et on est un espace un peu de réflexion politique sur le sens et le rôle des associations dans notre société. Les associations étant entendues comme des espaces de défense des droits humains fondamentaux, des espaces de liens, de soins, d'émancipation individuelle et collective, et aussi des espaces politiques.
En quelques mots, l'éducation populaire, comment vous la définiriez ?
L'éducation populaire, c'est en fait l'éducation par tous et pour tous, et à tous les moments de la vie, et c'est comment finalement s'émanciper collectivement en partageant nos savoirs d'expérience, mais aussi les savoirs académiques. Notre démarche au collectif des associations citoyennes, c'est le savoir égale pouvoir, en fait. C'est un espace non lucratif qui doit exister à la fois hors des logiques de marché, mais aussi hors des logiques totalement étatiques. C'est un espace citoyen et c'est pour ça que si on veut défendre notre démocratie, c'est très important qu'il reste bien vivant. On avait un système où la majorité était passée par de la subvention à de l'initiative associative vers un système qui est essentiellement porté par de la commande publique. Or, ça change complètement le rapport à la fois de la société, mais aussi des pouvoirs publics aux associations.
Alors expliquez-nous la différence, parce que finalement l'argent, il vient pas du même endroit dans ces deux cas ?
Si, il vient du même endroit.
Alors qu'est-ce qui change ?
Mais la vision politique ou bien la relation à l'association est très très différente. Dans le cas de la subvention, elle vient soutenir une initiative d'intérêt général sans que le financeur puisse en attendre de contrepartie. C'est le principe de la subvention, c'est-à-dire qu'elle soutient une initiative d'intérêt général qui vient de la société des citoyens. C'est des citoyens qui se mettent ensemble pour partager, rendre visible une problématique sociale invisibilisée jusqu'alors, pour défendre des droits, pour défendre des causes écologiques, enfin voilà. Là, on est dans le contexte de la subvention. La commande publique, c'est très différent, puisque la commande publique, c'est une politique publique décidée par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, l'État, et qui demande aux associations de s'inscrire dans cette commande publique. Ça peut être un marché public dans lequel vous avez un cahier des charges extrêmement contraint et l'association doit se caler dans ce cahier des charges. Donc on voit bien comment, dans le cadre d'une commande publique, l'innovation associative, elle a du mal à s'inscrire puisqu'elle doit s'inscrire dans un cadre contraint et défini par la puissance publique. Ce qu'on peut décrypter aussi, et ça c'est un peu tout ce qu'on décrypte dans notre observatoire citoyen de la marchandisation des associations, c'est que la subvention elle-même change de forme. On est passé d'une subvention de fonctionnement à une subvention par appel à projet. Là encore, c'est un cadre qui est défini par les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, qui disent, voilà, on ouvre un financement à tel type de projet et les associations doivent s'inscrire dans ces projets-là. Effectivement, les associations, elles courent après les appels à projets, elles finissent un projet, elles doivent en commencer un autre pour assurer leur fonctionnement. Le salariat associatif, il est très peu financé en tant que tel. On peut dire que l'association, maintenant, est financée pour ce qu'elle fait et non plus pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un creuset d'apprentissage du collectif et rentrer dans des réflexions sur comment on travaille en collectif, comment on fait ensemble, donc un peu l'apprentissage de la démocratie, on va dire.
Alors vous avez employé des mots comme marchandisation, logique de financement. Vous pouvez nous expliquer exactement la marchandisation, c'est quoi et quelle est la menace en fait ?
Alors, ce qu'on entend sous marchandisation, de manière très large, hein, pour démarrer, c'est tout ce qui pousse les associations à ressembler à des entreprises privées lucratives. C'est-à-dire, c'est tout ce qui nourrit un espèce de flou entre ce qu'est une association et ce qu'est une entreprise privée lucrative. Et donc, avec cette transformation du financement public, mais aussi avec le recul du financement public, il y a cette petite musique qu'on entend beaucoup, hein, dans les associations, c'est voilà, il faut hybrider vos ressources, il faut aller chercher du financement ailleurs, donc il faut aller chercher des financements privés. Et ça peut être, par exemple, développer des services payants, de la formation, augmenter vos tarifs pour accéder à du sport, à de la musique, et donc, de ce fait, exclure une partie de la population de ces services, en fait, hein, parce que, voilà, c'est aussi ça qui est en jeu, c'est qu'il y a tout un tissu associatif qui permet à tout un chacun de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, du sport, de la musique, du dessin, de la photo. Et si demain on baisse ces financements publics, forcément, les associations, pour survivre et continuer à proposer ces services, elles vont augmenter leurs tarifs d'accès aux cours de musique, aux cours de dessin, aux cours de tout ce que vous voulez. Et puis après, il y a tout un récit aussi sur il faut aller plutôt chercher de l'argent vers des fondations privées. Donc on voit aussi toute une reconfiguration de la philanthropie en France. Et puis aussi on a tout un autre récit encore sur la possibilité finalement de remplacer la subvention, le don, par de l'investissement. Et là c'est tout le processus qu'on appelle de financiarisation des associations, c'est-à-dire une très vaste reconfiguration de grands acteurs financiers, des banques et des assurances, qui développent tout un champ de financement, alors plutôt de start-up à impact, d'entreprises à mission, qui assurent pouvoir faire à la fois du bien et du profit en même temps. Et donc tout ce champ-là vient bousculer des secteurs qui étaient jusque-là portés par des acteurs associatifs. On peut penser à tout réseau des ressourceries et recycleries, par exemple, ou bien l'accompagnement à l'installation paysanne, ou bien les épiceries sociales et solidaires. C'est des champs qui sont bousculés par l'arrivée de ces nouveaux acteurs qui sont à visée lucrative.
Ce phénomène de marchandisation, il est perceptible depuis quand ?
Le grand contexte, c'est les années 80 avec l'accélération en France de ce qu'on a appelé le New Public Management, une nouvelle gestion publique. Disait que les outils de gestion du privé lucratif, finalement, étaient plus efficaces, permettaient de faire mieux avec moins de moyens. Et donc, c'est une déclinaison, on va dire, une déclinaison technique de l'idéologie néolibérale qui rentre en France dans les services publics et par ricochet dans les associations, qui fait entrer les associations dans une logique de gestion guidée par des objectifs de performance. Tout ça, c'est couplé aussi avec la mise en place d'un marché unique européen qui se construit autour d'une règle d'or qui est que la concurrence dans ce marché unique doit être libre et non faussée. Il n'existe pas de statut associatif au niveau européen. Les associations au niveau européen sont des entreprises comme les autres. Et à ce titre, les subventions peuvent y être perçues comme des aides d'État qui viennent fausser cette règle de la concurrence qui doit être entièrement libre, qui fait que plutôt que de défendre la subvention, les collectivités territoriales préfèrent passer par de la commande publique qui, elle, respecte ce cadre, cette loi sur la concurrence libre et non faussée.
D'ailleurs, on constate aussi dans le monde associatif des baisses en fait, d'engagement des bénévoles. Est-ce que aussi tout ce processus que vous nous avez décrit pourrait expliquer ça ?
Oui, tout à fait. Et c'est là où on voit aussi la vitalité de ces principes de solidarité, c'est-à-dire que face à des associations qui sont prises dans ces carcans administratifs aussi de plus en plus lourds, avec des exigences peut-être de plus en plus poussées de rendre des comptes, même si c'est très important de rendre des comptes, mais ça dépend comment on les rend, qui finalement rendent l'action bénévole et notamment sur toute la question de la gouvernance des associations de plus en plus complexe et lourde. On voit que les bénévoles, ils n'ont pas envie de s'engager dans une association pour faire de la paperasse hein, ou d'avoir des lourdeurs administratives énormes. Enfin, on observe une réorganisation en collectif pour penser différemment les manières de faire collectif, effectivement.
Face à ces enjeux, quels leviers l'État, les collectivités locales et les associations elles-mêmes, voire même les citoyens et citoyennes, peuvent-ils activer pour préserver et maintenir justement cet ancrage citoyen dans le modèle qui existe à l'heure actuelle ?
Alors pour nous, il y a un enjeu vraiment à défendre le principe de subvention. Et pour cela, on s'appuie beaucoup sur un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui est sorti au mois de mai 2024. Qui appelle à renforcer le financement des associations, une urgence démocratique. Et ce rapport, il fait pas mal de préconisations, dont justement renforcer le principe de subvention pour les associations, donc augmenter la subvention aux associations, mais aussi à repenser les modalités de subvention pour les rendre plus démocratiques, c'est-à-dire par exemple à proposer l'installation de commissions mixtes pour définir la redistribution des subventions, donc de rendre la redistribution de ces subventions plus lisible et visible pour l'ensemble de la population et peut-être la dégager un peu d'arbitraire politique ou de clientélisme partisan qui pouvait être un des biais de la subvention.
Pour terminer, pensez-vous que le modèle associatif peut perdurer à l'heure actuelle ?
Ah bah j'espère bien, pardon. J'espère bien parce que en fait, c'est surtout un espace à préserver parce qu'il fait lien social. Si demain on perd ce tissu social-là, on laisse toute la place au principe de marché, de marchandisation. Or, tout n'est pas marchandise et donc il est extrêmement important de défendre ces espaces non lucratifs, oui. C'est même vital si on veut rester en démocratie.
On remercie Marie-Anne Langlais pour sa disponibilité et ses explications. Pour aller plus loin, retrouvez les publications, les analyses et les ressources de l'Observatoire sur le site association-citoyenne.net.
D'autres ressources sont disponibles sur le site du Conseil économique, social et environnemental, lecese.fr.
Et bien sûr, l'interview est disponible en réécoute sur le site de votre radio préférée.
Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. Dun, 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 dun.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.